Mesdames et messieurs, bonjour encore une fois. Nous voici pour notre émission sur l'allaitement maternel. Et aujourd'hui, je suis avec le docteur Bienfait de la charité maternelle dans la ville de Goma. Nous continuons toujours dans ces mêmes sujets sur les bonnes pratiques de l'allaitement maternel dans notre programme national de nutrition avec les mamans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelque chose sur l'hygiène et tout ce qui cadre aussi avec cette bonne pratique. Docteur, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Avec plus de précision, nous aimerions avoir votre présentation.
Oui, moi c'est docteur Bienfait Mondeke Mujinya. Je suis pédiatre, périnatologue, expert en nutrition pédiatrique et diplômé de cardiologie pédiatrique. Je suis médecin pédiatre à l'hôpital général de référence Charité Maternelle où je suis chef de service de pédiatrie.
Oui, merci beaucoup docteur. Nous sommes dans ces sujets sur l'allaitement maternel. Ma première question est de savoir pourquoi allaiter.
Merci pour la question, mais j'aimerais d'abord placer un mot sur l'allaitement maternel. Alors, il faut dire que l'allaitement maternel constitue la référence pour l'alimentation du nourrisson pendant le premier mois de vie. Alors l'Assemblée générale de l'OMS avait recommandé en mai 2021 un allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie et de poursuivre cet allaitement jusqu'à l'âge de 2 ans. Mais il faut dire qu'on peut aller même au-delà des 2 ans selon le souhait de mère. Et puis l'OMS, l'UNICEF ont recommandé les enfants de le mettre au sein dans l'air qui suit la naissance. Donc pour dire que l'allaitement maternel, c'est l'aliment de référence qu'un nourrisson doit prendre. Alors, pourquoi allaiter? Parce que c'est l'aliment adapté à cet âge-là. L'enfant qui naît ne peut prendre que le lait comme un aliment. Et ce qui est recommandé, c'est le lait maternel parce qu'il n'y a pas meilleur lait ou meilleur aliment qui soit que le lait maternel. Tout ce qu'on a comme substitut, c'est des laits, mais qui n'égalent pas en termes de qualité, en termes de nutriments, le lait maternel.
Ah oui, docteur, à quand compter les débuts de l'allaitement?
Alors, comme je l'ai dit tantôt, c'est que dans l'heure qui suit la naissance, il faut déjà mettre au sein le nouveau-né.
Donc, après l'accouchement?
C'est tout juste après l'accouchement. Dans les heures qui suivent, il faut mettre le nouveau-né au sein. Donc, commencer l'allaitement le plus tôt possible.
Parce qu'il y a aussi des exceptions de femmes qui ne peuvent pas allaiter parce qu'il y a des femmes qui disent qu'ils ne peuvent pas laisser leur sein tomber. Est-ce qu'il y a une exception pour les femmes?
Alors, il y a certaines contraintes qui peuvent faire à ce que la femme ait des difficultés d'allaiter. Mais ce qu'il faut dire, par exemple, une femme qui a été césarisée, on sait que après, ça dépend du type d'anesthésie qu'on a utilisé. Si c'est l'anesthésie générale, il faut qu'elle se réveille pour allaiter. Mais la femme qui a été césarisée et qu'on a utilisé l'anesthésie loco-régionale, ça veut dire elle est consciente, elle, on n'attendra même pas le temps de dire non, elle doit se réveiller, elle doit se reposer. C'est dans les minutes qui suivent, on met directement le nouveau-né au sein. Il y a certaines contraintes, par exemple, certaines maladies où la dame ne pourra pas allaiter son nouveau-né, peut-être automatiquement dans les minutes qui suivent l'accouchement. Mais entre autres, il y a certaines contraintes qui vont faire à ce que la maman ne soit pas disposée à allaiter comme en fait vous l'aviez dit dans votre question. Il y a certaines dames qui vont se dire si en fait on allaite, les seins vont tomber. Ça, je le mets dans le cadre des inconvénients de la lactation et de l'allaitement du bébé. Il y a plusieurs inconvénients qui vont peut-être apporter ou mettre la maman dans un inconfort. Par exemple, on sait que lorsque l'enfant tète, le fait qu'il est en train de tirer va entraîner des douleurs abdominales. Et ça, c'est dû parce que le fait de téter, l'organisme produit certaines hormones, entre autres l'ocytocine, qui sera responsable des douleurs abdominales que les dames vont ressentir. Mais c'est des douleurs qui sont bénéfiques parce que ça aide à faire rentrer l'utérus à sa place normale. Ça veut dire que certaines femmes vont ressentir ça comme un inconfort et elles vont carrément refuser d'allaiter parce que dès qu'elles mettent les nouveaux-nés au sein, c'est les douleurs qui vont commencer. Alors, il y a autre chose, c'est que lorsque les enfants tètent, il peut se développer certaines mycoses ou certaines plaies qu'on appelle les crevasses au niveau de l'aréole du sein. Et ça fait tellement mal que il y a certaines mamans qui vont carrément refuser d'allaiter parce que elles disent que non, le quoi nouveau-né, le quoi nourrisson. Lorsque ils tètent, c'est des plaies qui vont en fait apparaître au niveau des, disons, l'aréole de leur sein. Alors, il y a une autre contrainte qui est plus une contrainte organisationnelle. Ça veut dire le fait d'allaiter plusieurs fois l'enfant dans une journée, certainement, entraîne une fatigue. Et cette fatigue sera due par l'allaitement. Et de ce fait, la femme ne saura pas faire tout ce qu'elle a l'habitude de faire et ça va un peu perturber toute son organisation. Et il y a certaines femmes qui vont carrément dire que non, bon, comme l'allaitement perturbe ma vie, donc la vie que j'ai menée avant sur le plan organisationnel, je n'en ai plus, j'arrête. Mais il y a aussi, toujours dans le même sens, un éventuel développement de troubles de sommeil. Parce que on sait que la plupart des nourrissons, ils vont passer leur journée en train de dormir. Ils ont un cycle qui est contraire à celui des adultes. Ils vont dormir pratiquement pendant 16 heures. Le plus souvent, c'est pendant la journée. Malheureusement, 8 heures, ils vont rester éveillés. Et les 8 heures, le plus souvent, c'est pendant la nuit. Au moment où le parent, la maman, doit se reposer, c'est en ce moment-là que le nourrisson, lui, il est éveillé. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va pleurer toute la nuit et il y aura un trouble de sommeil de la part de la maman. Elle va passer des nuits blanches pour somnoler la journée au travail et tout ça va faire que certaines dames, donc certaines femmes vont virer ou se dire non, je ne veux plus allaiter. Je pense que ça, c'est les quelques contraintes qui peuvent faire à ce que la femme refuse d'allaiter. Alors, maintenant, c'est la mode peut-être, c'est parce que nous allons vers une occidentalisation de la vie en Afrique. Alors, certaines femmes vont se dire, bon, ceux qui se disent entre guillemets émancipés, ils vont se dire que non, moi je ne vais pas allaiter parce que je ne vais pas que mes seins tombent et tout ça, parce que plus en fait j'allaite, plus que mes seins vont s'abîmer, ils vont tomber. Bon, je pense que ça c'est une question, bon, de prestige ou je sais pas, mais ce n'est pas vraiment dans notre culture en tant qu'Africain.
Merci beaucoup, docteur, pour cette analyse. Parlons maintenant de l'allaitement et la grossesse. L'allaitement pendant la grossesse peut-il déclencher les contractions?
Alors, ce qu'il faut dire, hein, est que l'allaitement commence après accouchement, n'est-ce pas?
Beaucoup de femmes, pendant qu'elles allaitent, risquent aussi de tomber enceinte, comme le témoignage que nous recevons.
Bon, j'aimerais d'abord parler peut-être de la lactation, hein, et après peut-être je vais en fait aborder la question telle qu'elle a été posée. Ça veut dire les phénomènes de la lactation, ça veut dire il faut d'abord comprendre qu'il y a le gland de mammaire qui sont situés dans le sein de la femme et qui produisent du lait sous l'effet de certaines hormones, la prolactine, mais ça sera juste avant l'accouchement. Donc, ces glandes-là vont produire le lait, mais qui sera stocké avant l'accouchement. Et celui-ci sera évacué de ces glandes-là le plus souvent après accouchement, lorsque le nouveau-né sera mis au sein, n'est-ce pas? Parce que le fait de téter va déclencher en fait certaines contractions au niveau de ces lignes autour de ces glandes-là qui vont expulser le produit contenu dans ces glandes-là, et ces produits, c'est le lait maternel, n'est-ce pas? Alors, dans le premier jour, il y aura un premier lait qu'on appelle le colostrum. Ce lait-là est de couleur jaune d'or, n'est-ce pas? Mais c'est un lait qui est très important parce que c'est un lait qui est très riche, surtout en immunoglobulines qui vont protéger l'enfant. Donc ce sont des anticorps, n'est-ce pas? Ce lait sera produit pendant les trois premiers jours. Ce n'est pas en grande quantité, c'est en petite quantité. Et le lait mature va intervenir au niveau du troisième jour, et c'est là qu'il y aura la montée laiteuse où maintenant il y aura beaucoup de lait qui seront produits, n'est-ce pas? Alors, à la question de savoir si l'allaitement et la grossesse, hein? Alors c'est que en fait il faut dire que aussi longtemps la plupart des femmes qui en fait allaitent, ils ne vont pas tomber enceintes parce qu'il y a certaines hormones qui sont produites avec l'allaitement et qui vont empêcher à ce que la femme tombe enceinte. Ça veut dire que même si une femme qui allaite conçoit, elle doit continuer l'allaitement jusqu'à ce que l'enfant lui-même va laisser les seins. Mais ce n'est pas une raison de dire que non, comme je suis maintenant enceinte et que j'allaite, je dois faire les sevrages, donc je dois arrêter l'allaitement de mon bébé. Non, il faut continuer l'allaitement jusqu'à ce que l'enfant lui-même arrête le sein.
Docteur, il n'y a pas de conséquences néfastes?
Aucune conséquence. Ce qui est en fait, on a dit tantôt, les femmes qui sont enceintes et qui allaitent, continuent d'allaiter. Ça n'a aucune conséquence et sur les nourrissons qui est en train d'être mis au sein et même pour le fœtus qui est encore dans le ventre de la mère. Donc, aucune conséquence.
Docteur, puis-je allaiter un bébé prématuré aussi?
Effectivement, le bébé prématuré, d'ailleurs, ce qui est recommandé, c'est le lait maternel. Par exemple, lorsque nous avons des grands prématurés, ça veut dire c'est des vraiment prématurés de moins de 1 kg, nous les alimentons avec le lait maternel strict, seulement le lait maternel. Pourquoi? Parce que c'est un lait qui est adapté par rapport aux besoins. C'est un lait qui est digeste, donc ils vont le digérer facilement. Ça ne va pas beaucoup poser de problèmes par rapport aux autres laits. Mais ce qu'il faut peut-être signaler, c'est que pour le prématuré, il y a un lait spécial qui est l'on donne au, donc, donc à ces nouveau-nés, c'est le lait prêt. C'est un lait qui est en fait différent de lait standard parce que c'est un lait qui est riche en ce qui concerne l'énergie parce que le nouveau-né prématuré a besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de calories pour sa croissance. Maintenant, c'est lait prématuré, donc c'est lait de prématuré, c'est un lait qui est fabriqué. Ça veut dire si il faut allaiter les prématurés, il faut les allaiter avec le lait maternel. Si le lait maternel n'est pas disponible, ils pourront être allaités avec du lait prêt.
Pour la pratique de l'allaitement maternel avec le maman que vous encadrez, quelles sont les observations que vous avez faites?
C'est que le maman allaite sans que elle puisse tenir compte de l'hygiène. Ça veut dire elles ne vont pas se laver les mains avec un détergent. Elles ne vont pas essuyer le sein avant de mettre leur nouveau-né au sein. Parce que c'est des pratiques d'hygiène qu'on devait respecter. Ça veut dire toute femme allaitante devait, avant d'allaiter son bébé, se laver les mains, c'est en fait rassurer que les mains sont propres et prendre un linge propre et essuyer tout autour de l'aéron, là où il va en fait allaiter son bébé. Alors, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, ça veut dire quand est-ce qu'il faut débuter l'allaitement. Nous l'avons dit tantôt, il y a certaines femmes qui vont ne pas alimenter leur bébé, disant que non, nous attendons qu'il y ait monté le thèse. Ce qui fait que pendant 2-3 jours, les bébés ne seront pas allaités avec risque que ces bébés tombent en hypoglycémie, ça veut dire le taux de sucre diminue. Et ça, c'est un danger parce que ça peut même emporter les bébés. Ça veut dire il faut allaiter dans les minutes qui suivent l'accouchement. C'est vrai, allaiter n'est pas inné, n'est-ce pas, pour la jeune maman. Mais il y a des questions et c'est ce qui pose toujours problème. Quel est le temps nécessaire pour une bonne tétée, n'est-ce pas? Alors, c'est qu'il faut dire que un tétée normal doit durer en moyenne entre 30 et 45 minutes. Alors, ce n'est pas à dire que le nouveau-né, il va tuer le sein pendant 30 minutes. Non. Ça veut dire, vous le mettez au sein, il va tuer pendant au moins 3 minutes, 4 minutes, et il va lâcher le sein. Lâcher, ça ne veut pas dire que le nourrisson est rassasié. Non. Il se repose. Vous le laissez le temps de se reposer. Une, deux minutes après, vous redonnez le sein. Il va encore tirer. Il va téter. Encore pendant 4, peut-être 5 minutes. Il va encore relâcher le sein. Ça veut dire le temps d'un bon tété, c'est 30 à 45 minutes en train de lui laisser le temps de se reposer. Et si le femme le font comme ça, un nourrisson va rester 3 heures de temps sans déranger, sans pleurer. Mais la plupart alors, ils vont pleurer avant les 2-3 heures parce que on l'a fait téter pendant 5 minutes, il a lâché les seins et on a pensé que il s'est rassasié, pourtant c'était une pause pour lui. C'est pourquoi la plupart des dames viennent en consultation disant que non, mon enfant tète tout le temps à chaque minute. Mais le problème, ce n'est pas les nourrissons. Mais le problème, c'est la maman. Parce qu'elle ne sait pas comment est-ce que elle doit faire son allaitement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect aussi, il faut dire que la production de lait n'est pas la même. Elle sera influencée par le temps, mais elle sera aussi influencée par les deux seins. Ça veut dire, ce qui est recommandé aussi, c'est que lorsque la maman allait, c'est mieux de commencer par un sein. Si elle sent que le sein devient vide, il n'y a plus de lait, elle peut mettre le nouveau-né, le nourrisson, sur l'autre sein. Ça veut dire, il faut toujours mettre le nouveau-né, de préférence durant le tété, aux deux seins. Cela, c'est pour en fait maximiser en termes de qualité du lait et de la quantité.
Et aussi pour éviter que les seins soient gros plus que l'autre.
Oui, bien sûr, parce que si en fait l'enfant n'était pas au sein, il y aura le phénomène où ce qu'on va appeler engorgement mammaire, ça veut dire les seins sera vraiment gros parce que il y a beaucoup de lait qui se sont accumulés au niveau de ces glandes dont on a parlé, et plus tard ça peut créer même des soucis à la femme allaitante. Ça va commencer à faire mal, ça peut s'infecter et ça va donner même de fièvre jusqu'à faire des abcès.
Docteur, est-ce qu'il peut y avoir de l'insuffisance de lait maternel?
Bien sûr, bien sûr. Il y a au fait de femmes qui ont une hypogalactorée, ça veut dire qu'ils produisent moins de lait maternel, n'est-ce pas? Et ce qui va faire à ce que leurs enfants ne seront pas rassasiés, et si le quoi nourrisson n'ont pas ce qu'il faut pour leurs besoins journaliers, comprenez avec moi qu'il y aura un retentissement sur leur croissance. De telles femmes seront obligées malheureusement de mettre leur nourrisson sous allaitement artificiel parce que ils ne sont pas capables de couvrir le besoin de leur bébé.
Et docteur, si il faut allaiter à chaque fois l'enfant pour que l'enfant garde sa bonne santé, de femme qui travaille, comment faire?
Alors, à cette question, nous allons répondre directement. Comment allaiter? C'est une question très importante parce que la plupart de femmes allaitantes ne savent pas comment s'y prendre, n'est-ce pas? Alors, il faut dire, pour un nouveau-né prématuré, par exemple, il doit s'alimenter toutes les deux heures. Ça veut dire, toutes les deux heures, ce nourrisson prématuré doit être allaité. Ce qui fait que il a droit à 12 repas dans les 24 heures. Pour le nouveau-né à terme, ça veut dire qui n'est pas prématuré, normalement, il doit s'alimenter toutes les 3 heures. Ce qui fait que sur 24 heures, il aura 8 repas. Ça veut dire que les femmes allaitantes doivent respecter cette façon d'allaiter. Ça veut dire j'ai un nouveau-né nourrisson prématuré, je vais l'alimenter toutes les 2 heures, nouveau-né à terme, toutes les 3 heures. Cela permet aussi à la femme de faire entre le repas, une tâche, que ça soit ménagère ou une course, sachant que non, j'ai un nouveau-né à terme que j'allaite, je l'ai allaité, j'ai 3 heures devant moi, et durant les 3 heures, je peux faire quelque chose, sachant qu'avant 3 heures, il faudrait que j'allaite encore. Je pense que les femmes allaitantes respectaient les heures précises d'alimentation, ça leur permettrait aussi de faire autre chose. Bien que pour le bébé, on peut dire que prendre le sein, c'est inné parce qu'en sortant même déjà du ventre, il a le réflexe de scission, déglutition, et la plupart, vous allez voir que ils sont en train déjà de faire des signes comme s'ils cherchaient déjà les seins. Ça veut dire, pour eux, c'est quelque chose d'inné. Pour les jeunes mamans, il faut les apprendre comment allaiter. Ça veut dire, c'est là l'occasion de leur dire que il faut commencer l'allaitement dans les minutes qui suivent l'accouchement.
Merci beaucoup, docteur. Vous avez un dernier mot?
Bon, les derniers mots, c'est les mots des remerciements. Ça veut dire merci d'avoir pensé à nous, passé nous voir pour en fait donner cette émission, informer nos mamans sur l'allaitement, c'est quoi l'allaitement, comment ça se passe, comment ça s'est fait. Et nous espérons que avec cette émission, nos mamans ont beaucoup appris sur l'allaitement et que ça va changer leur pratique sur l'allaitement maternel et que elles vont aussi impacter les autres femmes dans la communauté. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Mesdames et messieurs, vous avez suivi le docteur Bienfait de la charité maternelle ici dans la ville de Goma. Alors, si vous avez des questions, comme je l'ai dit toujours, contactez-nous sur les 09 99 20 64 54. Je répète mon numéro 09 99 20 64 54. Je suis Précieuse Pétou à la présentation. Alors, je vous laisse réfléchir sur tout ce que le docteur nous a enseigné aujourd'hui. Nous restons toujours en attente de vos questions. Merci beaucoup et ciao.